Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le Moyen-Orient, chaudron géopolitique de notre planète. Nous retrouvons nos invités, Fabrice Ballanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2, Ardavan Miraslani, avocat, essayiste et spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, et Pierre-Jean Louisard, directeur de recherche au CNRS, historien de l'islam contemporain. On a terminé la première partie de l'émission sur ce que révélait aujourd'hui la situation en Irak et en Syrie à propos de l'État islamique. On a, avec Ardavan Miraslani, évoqué l'émergence de l'Iran. Et cette donnée est un véritable cauchemar pour l'Arabie saoudite. Monsieur Miraslani nous l'a dit. Un commentaire, Fabrice Ballanche, sur cette notion de rivalité extrême entre l'Arabie saoudite et l'Iran?
Oui, bah, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Monsieur Amir Aslani, c'est-à-dire que les Saoudiens se sentent complètement cernés par les Iraniens, par cette espèce de croissant chiite qui les cernerait, plus un croissant, là c'est un cercle, puisqu'on y rajoute le Yémen, et que toute la stratégie des Iraniens depuis 79, depuis la révolution islamique, a été de casser les États comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, qui pouvaient être des alliés potentiels de l'Iran, parce que finalement, ces deux systèmes que vous avez qui se combattent. Vous avez un système rentier saoudien où on achète les gens, où une population est complètement assistée. Et puis vous avez quand même un système iranien, certes qui vit des hydrocarbures également, mais où on développe les infrastructures, on produit sur place, on veut monter une industrie, on ne veut pas seulement être des assistés de la rente pétrolière. Parce qu'aujourd'hui, les populations du Moyen-Orient, elles ont le choix entre deux modèles. Le modèle saoudien, on va travailler en Arabie saoudite pour les chers, et puis on achète un appartement à Beyrouth, on y vient pendant les vacances, etc. Mais on n'investit plus dans le productif dans son pays. Ou alors on a le choix entre le modèle iranien. Les Iraniens, par exemple, en Syrie, ils ont construit des zones industrielles. Ils exportent de la technologie. Donc, un système qui vous permet de rester sur place, de vivre peut-être moins bien qu'avec les pétrodollars saoudiens. Mais au moins, on construit un pays, on construit un État. Alors que le système saoudien, c'est plutôt la destruction des États périphériques.
Pierre-Jean Louisard, donc on a bien compris, un système plus vertueux, bien évidemment, en Iran, davantage qu'en Arabie Saoudite, comme vient de le dire Fabrice Ballanche. Besoin d'Iran en Irak pour lutter contre l'État islamique. Besoin d'Iran aussi en Syrie, Pierre-Jean Louisard.
Oui, alors il suffit de se promener dans le monde arabe à majorité sunnite pour voir qu'il y a un fantasme qui est quand même très répandu, c'est la prétendue menace de ce qu'on appelle l'axe chiite. Il est vrai qu'il y a des solidarités confessionnelles entre le Hezbollah, le pouvoir irakien et l'Iran, et aussi avec la communauté alaouite de Syrie qui n'est pas du Sibène, mais qui voilà est une branche du chiisme, mais ça ne veut pas dire que chacun est un petit soldat aux ordres de Téhéran. Il y a des logiques locales. Peut-être une chose qui unit toutes ces communautés chiites, c'est que dans le monde arabe, elles avaient un point commun très fort. C'était des communautés qui étaient soumises politiquement et socialement par des pouvoirs sunnites autoritaires. Et ceci depuis l'époque ottomane. Et la révolution islamique en Iran a donné le signal de leur émancipation. Et le Hezbollah au Liban est le meilleur exemple de cette émancipation, puisque le Hezbollah a mis au rancard les vieilles familles de propriétaires fonciers chiites et a très largement modernisé une communauté, et sans parler d'un pays comme le Bahreïn, par exemple, où le mouvement en faveur des droits civiques est très largement animé par des membres du clergé chiite. Donc c'est plutôt ça que les sunnites n'acceptent pas, et notamment les régimes autoritaires, c'est ce mouvement d'émancipation qu'on a vu en Irak, donc au Liban, au Yémen et dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite et à Bahreïn.
Ardavan Miraslani, vous partagez?
Oui, j'adhère totalement à ce qu'a dit le professeur Ballanche et monsieur. Effectivement, il y a deux thèses qui s'opposent. Mais je crois qu'il est important également de comprendre que toutes les pétromonarchies arabes du Golfe Persique ne suivent pas le même agenda. Vous avez une division radicale qui s'opérait entre certaines et d'autres.
Pensez au Qatar et l'Arabie Saoudite.
L'exemple de l'Égypte, si vous voulez, où pour la première fois en 4000 ans, un gouvernement démocratique, on peut être d'accord ou pas, la question n'est pas là, un gouvernement élu démocratiquement a été renversé par un coup d'État financé, organisé par les Saoudiens et les Émiratis. Pourquoi ? Parce que les Frères musulmans, une organisation hiérarchisée, initiatique, était la seule formule, si vous voulez, capable de s'opposer avec efficacité au pouvoir rentier des pays arabes du Golfe Persique. Cela dit, vous avez également une autre version de l'islam, qui est celle de l'extrême intolérance de la dimension wahhabite takfiri, qui est celle qui anime, par exemple, le front al-Nusra en Syrie, ou aujourd'hui l'État islamique en Irak et en Syrie. Et quand on constate la chose, on voit que ces deux tendances-là sont en train de se combattre. Et il suffit de voir l'isolement diplomatique dont fait l'objet le Qatar par rapport à l'Arabie Saoudite, le Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis, pour voir à quel point ces gens-là s'opposent. Et au milieu de tout ça, vous avez l'Iran. Et qu'est-ce que l'Iran ? Et on a souvent tendance à dire le Qatar et l'Iran, etc. Je crois qu'il faut que les auditeurs comprennent que quand on parle de l'Iran, on parle d'une civilisation. On parle d'un pays qui est dans ses frontières depuis des millénaires, souverain. On parle d'une population de 80 millions d'habitants. Le Qatar, c'est 240 000 personnes. Les femmes ne comptent pas, puisque c'est un pouvoir wahhabite, ça fait 120 000. Quand vous écartez les personnes âgées et les mineurs, ça fait 40 000. Qatar, c'est plus petit que la ville de Blois.
Mais beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent. Eh bien, cet argent est utilisé pour quoi faire ? Effectivement, la politique du portefeuille, acheter des allégeances, comme le professeur Balanche l'a rappelé, et également financer des groupuscules à gauche et à droite, le Hamas pour le Qatar, le parti Al-Nour en Égypte pour l'Arabie Saoudite, et l'État islamique par tous. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans le traumatisme du retour de l'Iran, et effectivement, ils étaient dans une situation bien confortable ces 35 dernières années, où en fait, ils avaient le monopole de l'affection américaine. Eh bien, ce monopole est en train de disparaître. Rappelons que les États-Unis discutaient avec l'Iran d'Ahmadinejad, ce personnage Honi Ebani, 6 mois avant que M. Rouhani fasse même acte de candidature à Oman, dans la capitale omanée à Mascat. C'est une réalité. Donc cette vague, cette lame de fond, si vous voulez, qui ramène l'Iran dans le Conseil des Nations, leur fait peur. Et regardons aujourd'hui, dans la pratique, les Américains regardent le terrain. Ils voient des islamistes de taille islamique décapiter des Américains. Et des chiites et des Iraniens. Donc il y a de facto une alliance de fait qui est en train de s'opérer entre les Iraniens et les Américains. Sur le principe simple de l'un du sud historique, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Et cette lame de fond ne peut pas être arrêtée. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir un retard, il va y avoir un accord, je pense, avant le 24 novembre, sinon plus tard, mais c'est inéluctable et ça fait peur.
Avant le 24 novembre, vous pensez là au nucléaire iranien, on est d'accord
Moi, je pense que globalement, il y a une très forte chance qu'avant les midterms et les élections aux États-Unis, qui risquent de faire en sorte à ce que le Sénat bascule dans le camp républicain, que Obama aboutisse à un accord avec le groupe de 5+1. D'ailleurs, les Iraniens font tout ce qu'ils peuvent. Quand vous regardez, par exemple, la centrale nucléaire d'Arak à Olourde, ils ont spontanément pris l'initiative de réduire la capacité de production de plutonium pour que la menace militaire soit écartée d'office. Je pense qu'on tend vers un accord.
Donc, on l'a bien compris, Fabrice Balanche.
Oui, effectivement, il y a cette volonté des États-Unis de renouer avec l'Iran qui est partagée. Mais il y a quand même pas mal de résistance dans la région. Hein, l'Arabie Saoudite en tête, effectivement. Et il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, c'est le régulateur mondial des cours du pétrole. Si les tarifs sont trop élevés, les Saoudiens produisent davantage. Et aujourd'hui, avec la production libyenne et la production irakienne qui est en berne, eh bien, on a besoin de demander à l'Arabie Saoudite de produire davantage pour éviter que les cours du pétrole explosent. Même si les Américains aujourd'hui peuvent être considérés comme autosuffisants sur le plan énergétique, l'Arabie Saoudite peut quand même gêner le système capitaliste mondial. Et ça, évidemment, Obama ne peut pas se le permettre. Donc il faut ménager les Saoudiens, il faut éviter de trop les irriter parce qu'on ne sait pas de quoi ils sont capables. Après, vous avez Israël aussi. Israël qui n'a absolument pas intérêt à ce que les États-Unis renouent avec l'Iran. Et quelque part, il se retrouve avec les Saoudiens sur cette volonté de s'aborder finalement ce rapprochement américano-saoudien. Il y a aussi la Turquie qui, on l'exclut un peu, mais du débat. Mais la Turquie, elle a envie de jouer un rôle au Moyen-Orient. Alors, elle est prudente. Mais tout de même, hein, l'État islamique, il doit quand même sa prospérité au fait que la frontière turque, syro-turque, elle est ouverte. Et que les gens de l'État islamique, ils peuvent aller se faire soigner en Turquie et ensuite passer un petit peu de temps dans le pays pour se reposer et revenir combattre en Syrie. J'étais en Turquie début juin l'année dernière. Ben, j'étais assez surpris de voir les djihadistes qui se promenaient comme s'ils étaient chez eux dans le sud de la Turquie. Et bon, les Saoudiens ont quand même compris le danger. On peut rapprocher ça d'un événement récent en France, hein, le fait que le roi, le prince héritier d'Arabie Saoudite soit venu pour concrétiser le contrat d'armement avec la France, là, 3 milliards pour donner des armes à l'armée libanaise.
Cette semaine.
C'est surtout un moyen, finalement, d'acheter le silence de la France ou d'utiliser la France pour elle aussi s'aborder les accords entre les États-Unis et l'Iran. On a vu, par exemple, l'année dernière, Fabius essayer de torpiller la conférence sur le nucléaire iranien.
Un commentaire d'avant Merastani.
Juste un commentaire rapide sur le pétrole, si vous voulez. Je pense que les Saoudiens n'occupent plus la position qu'ils occupaient de la guerre sur la question pétrolière. Effectivement, l'Irak aujourd'hui a des difficultés dans la production. Même si la production irakienne est principalement concentrée dans le sud du pays, et la production n'a pas été touchée par les troubles que ce pays connaît. Aujourd'hui, les cours du pétrole, sur ces 5 dernières années, donc avant même l'irruption islamo-fasciste dans la région, c'est à peu près le même prix. Donc, les Saoudiens ne sont plus dans une position, ils peuvent dicter, si vous voulez, les cours pétroliers à l'échelle internationale. Et puis également, les Américains ont compris une réalité, que les chiites ont beau être minoritaires dans la religion musulmane, ils sont majoritaires sur les gisements miniers d'hydrocarbures, en Iran, en Irak, au Koweït. Le pétrole chiite aujourd'hui est plus important, si vous voulez, que le pétrole sunnite. Ensuite, les réserves gazières iraniennes, qui d'après le rapport BP, benchmark du secteur, sont plus importantes que l'énergie russe, font qu'aujourd'hui, la domination sunnite sur les questions d'hydrocarbures n'est plus à l'heure du jour. Et puis la question israélienne, l'affaire de Gaza. Pendant les semaines où le Tsahal a bombardé Gaza, on n'a pas vu ni entendu, ne serait-ce qu'une seule roquette tirée par les Hezbollah sur le territoire israélien. Rien. Effectivement, les Hezbollah est engagé en Syrie et en Irak. C'est vrai. Mais dans la pratique, ils auraient pu au moins symboliquement se manifester. Ils l'ont pas fait. Donc dire aujourd'hui, si vous voulez, que les Israéliens considèrent toujours que l'Iran est leur menace, je ne suis plus tellement convaincu. Le Hamas à Gaza, c'est les frères musulmans, c'est soutenu par le Qatar. Et les islamistes aujourd'hui, qui risquent de devenir le voisin demain d'Israël, ce sont eux qui tirent aujourd'hui sur Israël. Donc aujourd'hui, la même logique qui prévaut pour les Américains, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, risque d'être également le grand changeur de la donne vis-à-vis des Israéliens, qui peuvent voir dans les Iraniens un allié à terme potentiel.
Donc on l'a bien compris, bouleversement, redistribution des cartes. Pour en revenir au cœur même de l'émission qui est la lutte contre l'État islamique, ce qu'on a bien compris au fil de vos interventions à chacun, c'est que l'objectif d'éradication de l'État islamique, eh bien, il n'est pas partagé par tout le monde.
Oui, tout à fait.
Fabrice Balanche.
Oui, tout à fait. Les Saoudiens ont beau faire des déclarations, condamner l'État islamique, dire qu'ils vont interdire les financements, etc. Dans la pratique, ils ne font rien. C'est pour donner le change. Les Saoudiens, après le 11 septembre, où il y avait 15 des 19 pirates de l'air qui étaient Saoudiens, ont dû donner des gages aux États-Unis. Ils continuent à le faire. Mais finalement, c'est à eux que profite la montée en puissance de l'État islamique.
Pierre-Jean de Luzard.
Oui, l'éradication d'un mouvement qui a conquis en quelques jours le tiers du territoire irakien, évidemment, semble très peu probable. Encore une fois, il n'y a pas de victoire militaire possible. Il y a un problème politique complexe, et tant qu'on ne s'attellera pas à la solution de ce problème politique, voilà, toutes les coalitions militaires internationales qu'on voudra mettre sur pied aboutiront au même défi, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte une réalité qui est quand même très largement locale, parce que je veux bien qu'il y ait un grand jeu régional, et je ne nie pas la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais ça n'est pas le facteur essentiel. À mon avis, les facteurs essentiels sont locaux, internes à chaque État, et ces États sont en crise, et là, ça n'est pas dû à la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est dû à l'histoire longue propre à chacun de ces États.
Alors, à vous entendre, Pierre-Jean Luizard, est-ce qu'il faut craindre finalement une opération, une intervention militaire, en particulier des États-Unis, qui voient bien la pression monter. On a parlé en introduction de l'émission, l'assassinat de deux journalistes américains, les élections du 4 novembre, tout ça fait que... Mais finalement, on se rend compte que une opération militaire ne viendrait rien résoudre et peut-être aggraverait-elle les choses, Pierre-Jean Musard.
Oui, c'est ce que tente l'État islamique, d'entraîner les États-Unis dans une opération qui ferait, aux yeux des sunnites du monde arabe, clairement apparaître les chiites et les kurdes comme des alliés des États-Unis. Voilà, c'est une rhétorique qui est extrêmement porteuse. Et encore une fois, la façon dont l'État islamique a concédé certains territoires ne préfigure pas, à mon avis, l'effondrement de l'État islamique dans les zones où il a une véritable base politique.
Ardavan Amir Aslani.
Je crois que effectivement l'État islamique a réussi quelques exploits militaires, mais il faut voir également le fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Je me souviens, lorsque Mossoul a été pris, on annonçait la prise de Bagdad, ils sont à 60 kilomètres. Ils sont à 60 kilomètres depuis des mois et des mois. Donc, ils n'avanceront plus. Ils ont subi des échecs que vous connaissez à Merli, à Souleymane Beg et ailleurs. Je crois que, effectivement, il faut une solution politique. Il faut associer davantage toutes les communautés religieuses, confessionnelles, ethniques au partage de pouvoir. Cela, c'est vrai et il faut le faire. Mais au préalable, vous avez, au milieu de tout ça, en Irak, en Syrie, des dizaines de milliers de groupes terroristes armés internationaux transfrontaliers qui sont sans pitié, qui traitent tout ce qui ne leur ressemble pas, tout ce qui ne partage pas leur foi, comme des animaux, comme du bétail, qu'il faut au moins affaiblir. Donc, dans un premier temps, il est inéluctable de lancer, si j'ose dire, une coalition internationale, ou en tout cas une coalition des puissances régionales, ou en tout cas à l'intérieur de l'Irak, à l'encontre de cette force brutale, pour les calmer, et ensuite mettre en œuvre une solution politique. Comment voulez-vous dialoguer avec des gens qui décapitent? Comment voulez-vous dialoguer avec des gens qui violent? Qui utilisent la politique de l'assassinat ethnique, qui sont payés $1,000 par chiite tué, comme étant, si vous voulez, des partenaires crédibles pour un dialogue? Dans un premier temps, il faut punir, et ensuite on verra.
Alors on a parlé, et ce sera peut-être les mots de conclusion que je vous laisserai à vous, Fabrice Balanche, de l'émergence donc de l'Iran, hein, au bénéfice finalement de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, et la Russie, dont le rôle attendu ou est, peut particulièrement être important.
Bah, la Russie, dès le départ, lorsqu'il y a eu une coalition anti-Assad, a dit « Mais attendez, notre ennemi, c'est le terrorisme islamique, et il va se développer si vous déstabilisez le régime d'Assad. » Assad avait d'ailleurs dit en mars 2011 « Que voulez-vous faire en Syrie? Est-ce que vous voulez un nouvel Afghanistan ?» Alors, à l'époque, on avait dit qu'il agitait le diable pour rester en place. Bon, non. Moi, également, je suis pas pro-Assad, mais je savais très bien que si on déstabilisait la Syrie, vous aviez tout le radicalisme sunnites qui allaient monter en puissance. Parce que si l'État islamique risque de ne plus avancer en Irak, parce que là, il va heurter les zones kurdes et les zones chiites, donc il n'aura plus de partisans. Mmh. En revanche, en Syrie, il a un boulevard devant lui. Là, ils sont en train de s'approcher d'Alep, d'essayer de couper les communications entre la partie gouvernementale d'Alep et la zone gouvernementale au niveau de Hama et de Homs. La prochaine victime, ça sera la ville ismaélienne de Salamieh, qui est en même temps un carrefour stratégique. Ils ont encore les moyens d'avancer, en tout cas en Syrie. En Jordanie, où vous avez des cellules de l'État islamique, la ville de Ma'an, dans le sud, s'est révoltée contre l'État. Il y a eu des slogans pro-État islamique qui ont été lancés. Le Liban, vous avez des foyers également. Donc, il peut avancer fortement vers l'Ouest. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et la coopération avec la Russie, elle serait souhaitable. Je pense qu'il y aura un partage. Les Américains s'occupent de l'Irak et puis les Russes s'occupent de la Syrie, finalement. Mais bon, vous avez la question ukrainienne, évidemment, qui bloque les pourparlers américano-russes.
On termine sur les paroles de Fabrice Balanche. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2, qui était en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu à Lyon, que je remercie pour leur accueil. Merci. Ardavan Amir Aslani, avocat, essayiste et spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient. Et Pierre-Jean Luisard, directeur de recherche au CNRS, historien de l'islam contemporain. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. Samedi prochain, Géopolitique reviendra sur le sommet de l'OTAN. À très bientôt.